Lundi 9 août 2021, le GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a publié la première partie de son nouveau rapport. C'est le sixième depuis sa création en 1988. Un rapport qui était très attendu puisque la situation climatique s'est encore détériorée ces dernières années, en témoignent les catastrophes naturelles de cet été entre inondations et incendies. Pour mieux comprendre ce qui se trouve dans ce rapport, j'ai rencontré Denis Bonnel, physicien et économiste qui s'intéresse particulièrement aux énergies éoliennes et solaires, et également membre du collectif Arageois pour le climat. Bonjour Denis, est-ce que tu peux nous présenter cette association ?
Oui, donc je suis Denis, membre du collectif Arageois pour le climat, qui essaye de faire un maximum de mobilisation au fur et à mesure qu'on a des nouvelles vraiment inquiétante sur le climat. Donc ce qui est le plus connu, c'est qu'on organise les marches pour le climat. On essaie qu'elles soient un peu spectaculaires, ludiques, qu'elles soient ouvertes à tous, pour montrer que la lutte pour le climat, c'est l'affaire de tous et que les gouvernements vraiment doivent s'en saisir et pas traiter ça comme quelque chose de marginal. Je pense qu'avec ce nouveau rapport, il faudra encore plus se mobiliser pour faire entendre la voix des citoyens.
Donc justement, ce rapport du GIEC, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que le GIEC et comment il fonctionne ?
Alors le GIEC, ce sont des représentants des États, mais où la communauté scientifique a un très fort pouvoir. Et donc, il examine la totalité des articles très nombreux que les climatologues dans le monde entier publient. Et ils en font une synthèse.
Quel est l'objectif du GIEC à terme ?
Alors l'objectif du GIEC, c'est d'avertir l'humanité sur des phénomènes qui ne sont pas très visibles parce que les gaz à effet de serre, ils sont dilués dans l'atmosphère, on ne les voit pas. Et pourtant, ils ont un effet très important. Ils conduisent à un réchauffement très important de l'atmosphère et de la surface de la Terre et des océans et des glaces. Les émissions de gaz à effet de serre n'ont jamais été aussi élevées. Bon, il y a eu quelques mois avec le Covid où à cause de l'arrêt de l'aviation et de certains secteurs économiques, ça avait un petit peu diminué, mais ça a repris de plus belle.
Et donc, dans ce rapport précisément, qu'est-ce qu'on y trouve ?
Alors, on y trouve déjà confirmation de ce qu'on savait depuis au moins 30 ans. De toute façon, la science, dès le départ, avait prévu qu'il y aurait un réchauffement climatique avant même que celui-ci n'apparaisse. Ensuite, ce qu'il y a de nouveau dans celui-ci, c'est que, d'ailleurs, ça correspond tout à fait à l'actualité avec de nombreux événements extrêmes, c'est-à-dire des sécheresses, des canicules, des orages, des inondations. Au moins, c'est un signal d'alarme qui pousse les pays riches et responsables des émissions à faire quelque chose, parce qu'il y a d'autres conséquences, l'augmentation lente de la température en Afrique, l'augmentation lente du niveau des océans qui risque de submerger certaines îles. Et comme cet élan, tout le monde s'en fichait. Donc bon, c'est très embêtant d'avoir des événements extrêmes, mais peut-être que ça va au moins nous forcer à réagir au bord du gouffre. Un événement qui normalement devrait arriver tous les 50 ans, maintenant on sait calculer qu'il arrive tous les 5 ans. Un événement qui avait une certaine violence s'il n'y avait pas eu de réchauffement climatique, on peut calculer de combien de dizaines de pourcents il est plus violent qu'avant. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté de ce rapport et ça correspond malheureusement très bien à l'actualité. Dans 5, 10, 15 ans, on peut avoir des effets vraiment irréversibles et donc il faut maintenant d'urgence presque tout changer dans le fonctionnement de l'économie.
Donc justement, quelles seront les conséquences irréversibles ?
Alors des conséquences irréversibles, c'est par exemple le fait que le niveau des océans a déjà augmenté et il ne redescendra pas, ou sinon dans 100 000 ans, mais ce n'est pas le problème. Des conséquences presque irréversibles, c'est tout ce qui se passe près du pôle Nord avec des glaces qui fondent de plus en plus, avec la Sibérie où le sol se dégèle, ça pourrait libérer beaucoup de méthane qui est un gros gaz à effet de serre, des virus inconnus, enfin il y a un certain nombre de choses très dangereuses et peut-être déjà irréversible dans ces coins-là. Pour le reste, l'augmentation de la température, elle est quasiment irréversible. Le mieux qu'on peut faire si on arrêtait toutes les émissions, ça serait de stabiliser la température. Si on ne fait que diviser les émissions par deux, moins 50% d'un point de vue économique, c'est gigantesque, et pourtant ça ne serait que diminuer les émissions par deux, et dans ce cas-là, ça veut dire que les températures continueraient d'augmenter avec des émissions qui seraient encore 50% de ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc déjà, le fait d'être sur une telle trajectoire, c'est presque irréversible. En tout cas, c'est extrêmement difficile à corriger.
On est dans la merde jusqu'au cou, c'est fou comme on a su oublier. Le déni, c'est tellement plus cool que ce genre de vérité.
Bon, si on essaye d'être un petit peu optimiste, quelles pourraient être les solutions ?
Alors, les solutions, ça peut être d'aller vers plus de sobriété énergétique qui s'oppose à l'ébriété énergétique, être ivre. Et on peut considérer qu'effectivement, il y a certains riches, quand ils dépensent, ils sont ivres de leur richesse, de leur possibilité de faire n'importe quoi et d'émettre d'énormes quantités de gaz à effet de serre. Donc, évidemment, la sobriété énergétique, c'est très bien. D'autres solutions, donc à la place de centrales au charbon, il faut développer des énergies renouvelables telles que le solaire, l'éolien. Il y a des difficultés techniques. Longtemps, ça coûtait cher. Maintenant, c'est tout à fait compétitif, donc il n'y a vraiment plus beaucoup d'excuses pour ne pas le faire, et il faut le faire très vite.
Est-ce que c'est possible aujourd'hui de produire de l'énergie seulement avec du solaire et de l'éolien ? Est-ce qu'on a besoin du nucléaire, par exemple ?
Alors, les gens qui sont pour le nucléaire disent d'une part qu'une centrale nucléaire, c'est tout petit, donc c'est bien mieux. Alors, le solaire et l'éolien, c'est quand même 10 fois plus efficace que la biomasse, que la photosynthèse. Ça risque de prendre comme surface sur la Terre au maximum 1 ou 2% des terres émergées, donc c'est significatif, on comprend que ça soit en débat, mais ce n'est pas impossible. Ensuite, évidemment, quand il n'y a plus de vent, qu'il n'y a plus de soleil, il faut avoir stocké de l'énergie, mais il y a de plus en plus de solutions de stockage d'électricité, donc a priori, ce n'est pas quelque chose d'impossible pour le solaire et l'éolien.
On va revenir un petit peu sur les causes de ce changement climatique.
Alors les causes, bon, quand on parle de CO2, c'est principalement quand on veut produire de l'énergie, donc par exemple de l'électricité dans les centrales au charbon, par exemple des voitures, tout le chauffage dans des logements, des bureaux, etc. Également la climatisation. Donc tout ça, c'est de l'énergie et il faut éliminer le CO2. Il y a d'autres gaz à effet de serre, donc le méthane par exemple, le protoxyde d'azote, qui pose plus de problèmes à partir essentiellement de l'agriculture.
Tu as évoqué les voitures, le chauffage. Est-ce que les petits gestes individuels du quotidien sont utiles ? Est-ce qu'ils sont même suffisants ?
Alors, ils sont certainement utiles. Isoler sa maison, pas pousser le chauffage à fond, pas avoir des fenêtres grandes ouvertes en même temps qu'on a le chauffage à fond, mettre un pull chez soi quand il fait un peu frais plutôt que de mettre le chauffage très fort. Donc tout ça, c'est effectivement des petits gestes individuels qui vont apporter une bonne partie de la réponse. Chaque individu peut aussi choisir d'acheter son électricité à des coopératives d'énergie renouvelable, par exemple, ça c'est bien. Et puis, il y a aussi des questions politiques, c'est-à-dire dire il faut être sur une trajectoire qui décroisse chaque année, par exemple, de 5%. C'est une décision que devra prendre la COP26 à Glasgow. Et ensuite, chaque gouvernement doit l'appliquer. C'est à lui, en discutant avec les industriels, en discutant avec la population, en refaisant peut-être d'autres conventions pour le climat, n'importe quoi. Il faut trouver les meilleures solutions. Et ça, il y a des choix. C'est normal que ça soit aussi le politique. Et c'est à nous de voter de la bonne manière pour que ça soit pris en compte.
Et on a quand même l'impression que ça fait 30 ans depuis le premier rapport du GIEC que les scientifiques préviennent les politiques, justement. Comment on explique que rien n'est vraiment changé ? Et est-ce qu'on peut être optimiste pour la suite, justement, avec la COP26 de Glasgow ?
Alors malheureusement, les politiques pensent souvent qu'au court terme, c'est-à-dire à leur prochaine réélection, alors que, il y a 30 ans, il fallait prendre des bonnes décisions pour avoir des excellents effets 50 ans plus tard. Alors, malheureusement, il reste très peu de temps. Peut-être que ça va, pour une fois, secouer un peu les politiques et les aiguillonner. Macron, quand il est arrivé au pouvoir, il avait nommé Nicolas Hulot. Il continuait à rien se passer. Nicolas Hulot, un jour, a démissionné en disant « Mais vraiment, je ne sers à rien ».
Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement.
Et c'est à ce moment-là, me semble-t-il, qu'en France, il y a eu vraiment une prise de conscience. Il y a eu une mobilisation très forte lors de nos marches pour le climat. Donc peut-être que maintenant, on peut avoir des perspectives de très forte mobilisation qui font que les politiques vont peut-être enfin agir. Et puis évidemment, heureusement, bon, on a perdu 4 ans avec Donald Trump, mais Joe Biden a l'air au moins de vouloir faire effacer, peut-être annuler toutes les décisions catastrophiques de Trump. C'est déjà un bon début.
Merci beaucoup Denis Bonnel de nous avoir éclairci sur les enjeux de ce nouveau rapport donc du GIEC qui est sorti, je le rappelle, le lundi 9 août.
Je voudrais être un arbre, boire l'eau des orages, mourir de la terre, être ami des oiseaux, et puis avoir la tête si haut dans les nuages, qu'aucun homme ne puisse y planter un drapeau.
On l'a bien compris, le nouveau rapport du GIEC n'est pas rassurant. Mais des initiatives locales montrent la voie. C'est par exemple le cas d'Ecopal, une démarche d'écologie industrielle et territoriale située à Dunkerque. Damien Marez, chargé de mission dans l'association, nous explique en quoi elle consiste. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter Ecopal ?
Oui, bien sûr. Alors donc moi c'est Damien Marez, donc je suis chargé de mission en écologie industrielle et territoriale à Ecopal. L'EIT, comme on l'appelle, l'écologie industrielle et territoriale, représente en fait la mutualisation de biens, de services, d'infrastructures et des flux de matières, donc l'énergie, l'eau et les déchets, entre les acteurs d'un même territoire afin de créer des synergies et optimiser l'usage des ressources. Et ça s'inscrit dans la démarche réduire, réutiliser et recycler de l'économie circulaire.
Et donc, concrètement, comment votre démarche, elle fonctionne au quotidien ? Qu'est-ce que vous faites ?
On va dire notre action vitrine, c'est la mutualisation de services, c'est-à-dire des collectes mutualisées, donc de papier carton, de piles batteries, déchets dangereux, déchets électroniques ou encore des archives. Par exemple, on peut prendre les piles et batteries. Donc, on va chercher les piles et les batteries chez les adhérents qui en font la demande. On les met dans nos petits locaux et puis ensuite c'est Corépil qui vient les rechercher pour les recycler. Et pour donner un chiffre, nous sommes à peu près à 440 tonnes de déchets mutualisés par an avec plus de 85 structures participantes.
Donc vous avez commencé à parler du type de déchets que vous recyclez. Comment ça se passe ? Comment un déchet commence par être un déchet puis devient une matière première d'une nouvelle entreprise ?
Alors ça, c'est justement tout le but, c'est de trouver des synergies entre les entreprises. On essaie d'identifier les flux de déchets qui sortent et qui entrent dans les entreprises et voir comment on peut les utiliser, enfin comment les entreprises peuvent les utiliser, soit comme matière première secondaire, soit les valoriser. Et je vais prendre un exemple très concret pour que ce soit parlant. Par exemple, avec ArcelorMittal et Ecosen, qui sont deux entreprises sur le bassin dunkerquois. Et donc, en fait, Arcelor a ce qu'on appelle un déchet qui est du laitier granulé. Et ce laitier granulé va servir de matière première secondaire à l'entreprise Ecosem Dunkerque qui va l'utiliser pour fabriquer un substitut de béton qui émet 45 fois moins de CO2 qu'un ciment, un béton traditionnel.
Et pourquoi vous êtes installé à Dunkerque ? Est-ce qu'il y avait un besoin particulier dans cette région ?
Il y avait un besoin. Alors on a beaucoup d'industries sur le territoire dunkerquois, mais surtout il y avait une volonté collective, donc des entreprises et une volonté politique d'améliorer, de rendre plus vert les entreprises, les process d'entreprise. Et d'avancer ensemble, et pour que les entreprises aient un impact environnemental beaucoup plus faible.
C'est vrai qu'il fait un temps superbe pour un dimanche de février. Il y a ceux qui bronzent déjà sur l'herbe et ceux qui s'inquiètent des degrés. Les éléments sont en colère et les décideurs font la loi. Quand un expert montre la terre, l'industriel regarde le doigt. Et quand il rentre à la maison, il dit franchement, il n'y a plus de saison.
Alors, on va parler un petit peu du rapport du GIEC, dont la première partie est sortie lundi. Je ne sais pas si vous avez un petit peu regardé les grandes lignes.
Oui, j'ai regardé les grandes lignes, tout à fait.
Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Alors, qui est dit dans le rapport du GIEC, effectivement, c'est pas nouveau. Mais par contre, il y a des choses qui sont très claires maintenant. Et c'est ça qui est très important. Alors certes, le rapport peut paraître très alarmant et il faut une réaction immédiate. Et c'est indéniable que les activités humaines sont à l'origine du changement climatique.
Qu'est-ce qui vous semble plus important entre les démarches individuelles et puis associatives, comme vous, ou les grandes lignes politiques ?
Les deux, en fait, sont totalement liés. Je ne pense pas qu'il y ait une chose qui est plus importante que l'autre, puisque de toute façon, nous aussi, on travaille avec la politique locale. On va dire que tout le monde va se mettre autour d'une table et d'avancer ensemble. Les entreprises, les politiques, les associations, mais aussi les consommateurs, que tout le monde prenne en compte ce rapport et que tout le monde fasse son possible pour justement faire des actions pour atténuer le réchauffement climatique.
Donc l'écologie industrielle et territoriale, ce serait une des solutions. Est-ce qu'il y a beaucoup de démarches comme vous en France ?
Alors effectivement, l'écologie industrielle et territoriale, ça fait partie d'une action qui fait partie justement de tout ce qui est lié à limiter le réchauffement climatique. Alors nous ne sommes pas beaucoup en France, nous avons été les premiers. Par contre, il y a quand même un mouvement qui se crée et il y a une volonté de justement développer l'écologie industrielle et territoriale sur d'autres territoires. Après, c'est vrai que, alors juste concernant le rapport du GIEC, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu perdu d'avance. Or, c'est pas le cas. Il faut pas tomber dans le défaitisme. Il y a quand même des solutions qui existent. On peut aussi continuer à appliquer les principes de l'économie circulaire et ne plus raisonner en économie linéaire comme on l'a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire extraire, fabriquer, consommer et jeter. Mmh.
Bien, votre message est entendu, il faut rester optimiste.
Voilà, c'est ça, il faut totalement rester optimiste.
Il n'y a plus de saison, il n'y a plus de saison. C'est ma grand-mère qui avait raison. Il n'y a plus de saison, il n'y a plus de saison. Le ciel est noir à l'horizon.
On retiendra donc qu'il reste de l'espoir. Il ne faut pas céder au pessimisme. Mais c'est vrai que ce nouveau rapport du GIEC alerte, surtout que nous sommes à l'aube de la COP26 à Glasgow, qui va se tenir en novembre prochain. Les scientifiques attendent donc des réactions lors de ce prochain sommet international. En tout cas, merci à Denis Bonnel et Damien Marez d'avoir répondu à toutes mes questions pour Radio PFM.